Il est 9h41 sur France Inter, démarrage en trompe de l'instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Le demi-frère de Kim Jong-un mystérieusement assassiné il y a quelques jours. L'enquête prend des allures de série B. La machine à fantasmes s'est méchamment remise en marche. Ainsi va toute information concernant la Corée du Nord, le pays le plus fermé du monde où nul journaliste ne peut exercer normalement son métier. Difficile d'y entrer, difficile de vérifier aussi ce qui en sort. Entre propagande et folles rumeurs, les médias occidentaux propagent parfois les trucs les plus dingues. Bonjour Harold Thibault.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste au Monde, vous revenez à peine de Shanghai, vous avez été longtemps correspondant, vous êtes en charge de l'Asie, vous êtes pile dans l'œil du cyclone. On y vient, on a plein de questions à vous poser. Juste après Redouane Tella, salut Redouane.
Salut Sonia.
Votre amour pour le basket américain vous perdra. D'ailleurs, il nous perdra tous. C'est une équipe fan de la NBA, l'Instant
Beaucoup
M.
Trop.
Beaucoup trop. Allez, hashtag Instant M.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Connaissez-vous la devise historique du New York Times ? All the news that fit to print. Toutes les nouvelles qui méritent d'être imprimées. Connaissez-vous le tout nouveau slogan publicitaire du New York Times ? Truth. It has no alternative. La vérité. Point. Elle n'a pas d'alternative. Réponse évidemment au fait alternatif, hein, publiquement formulé par l'administration Trump. Réponse un peu glaçante, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. La vérité, la vérité. Ça ne vous rappelle pas la presse chinoise ?
Harold, un peu, c'est la vérité officielle, c'est ça.
C'est ça, c'est la vérité. Quelle vérité ? Celle du New York Times, bigre. Hein. Franchement, moi je trouve que asséné comme ça s'affiche un peu la trouille. Ce week-end, Redouane, les déclarations d'une star du basket, mais une star, une vraie, hein, vraiment,
une vraie star,
une superstar, ont fait la une des plus grands médias américains.
Il s'appelle Kyrie Irving, il a 24 ans, il est champion NBA et il affirme que les aliens existent et que la Terre est plate.
Kyrie Irving, do you believe there are aliens?
I would say yes.
Do you believe
that the Earth is round?
Yes, I do.
But I heard the new one that the Earth.
There's
is...
no new one. There is no it's, new one.
Okay, I heard some crazy.
Do you believe,
one. My boy
do you believe that we are?
That. Do you believe? This is gonna sound crazy. Ben Diggles, this is a shout out to you. He came to us and he listens to super conspiracy theory guy.
This is not a conspiracy.
The Earth is flat.
Yeah, no, the Earth is flat.
Oh, here we go.
The Earth is flat.
Et bon. Ben voilà, on y est, la Terre est plate et ça rigole.
Ouais, cet extrait est tiré d'une émission de divertissement disponible en podcast dont Kyrie Irving était l'invité. On entend bien dans cet extrait qu'il est à moitié hilar, mais ça n'a pas empêché les réseaux sociaux de s'en moquer et d'en faire, de fait, un des sujets les plus commentés du week-end. Alors les médias ont repris l'info, certains journalistes ont demandé au basketteur de réagir et devinez quoi, il a surenchéri affirmant même avoir des doutes sur l'existence des dinosaures.
Et voilà, ça a fait du buzz et du buzz et encore du buzz, ça a prolongé tout ça dans les heures qui ont suivi. Les grandes chaînes de télé n'ont rien trouvé de mieux à faire que de relayer cette déclaration.
Oui, et puis on a demandé à tout le monde de réagir, la superstar du basket LeBron James l'a défendu, Adam Silver, le patron de la NBA, a réagi, les complotistes ont fait des vidéos sur le net pour soutenir ses théories farfelues, Twitter s'est moqué de lui et des articles ont été écrits pour dire que Twitter se moquait de lui. Bref, des réactions en chaîne qui ont fini par fatiguer tout le monde.
Voilà, jusqu'au moment où Kyrie Irving a décidé d'avouer que tout ceci n'était qu'une grosse blague.
Une grosse blague destinée à tester la réaction des médias. Il a dit trouver hilarant que ces déclarations deviennent une véritable info et qu'on interroge les gens là-dessus. Mais si tout ceci n'était qu'une supercherie, pourquoi ai-je décidé ce matin de vous raconter cette histoire ? Eh bien, parce que ce week-end, à quelques centaines de kilomètres de Kyrie Irving, Donald Trump tenait un meeting où il a sous-entendu qu'il y avait eu un attentat en Suède la nuit passée. Or, cet attentat n'a jamais existé, une fausse info de Trump, une des nombreuses fake news qu'il distille pour occuper l'espace médiatique. Car Trump, là aussi, a réussi son coup de la même manière que Kyrie Irving. Les réseaux sociaux se sont là aussi agités et des centaines d'articles ont été écrits pour relever sa bêtise. Et c'est peut-être le plus grand vice du fact-checking, cette pratique citoyenne et journalistique qui consiste à vérifier les faits. La non-information est devenue une information. Le fait de dire des énormités offre à celui qui les dit une exposition insensée.
Mais c'est vrai ça, hein, non, vous trouvez?
C'est ce qu'on dit, une annonce et un démenti, ça fait deux informations. C'est... Pour les médias, ça paye.
Pour les médias, ça paye. Et finalement, pour celui qui a dit l'énormité, bah, ça le fait exister encore et encore et encore et encore. Et finalement, si on se rend compte du temps qu'on passe et de l'espace qu'on occupe à démentir les énormités, bah, peut-être qu'on devrait s'interroger, parce que pendant ce temps-là, il y a tout un tas de vraies informations qui mériteraient de surnager et de surgir dans l'actualité et qui malheureusement sont régulièrement trappées. Merci Redouane, direction la Corée du Nord.
L'instant M avec Sonia De Villers.
L'ex-petite amie du dictateur Kim Jong-un a-t-elle été fusillée pour avoir filmé ses ébats avec un musicien de son orchestre ou pour avoir possédé une Bible? On a tout lu hein, sur cette histoire. Est-elle réapparue 9 mois après sa mort à la télévision nord-coréenne? Oui, c'est possible en Corée. On peut réapparaître alors qu'on est déjà mort. Bienvenue au royaume du cauchemar journalistique, Harold Thibault. Depuis quelques jours, il y a une affaire à courir. Alors c'est un petit peu particulier parce que l'assassinat du demi-frère du dictateur ne s'est pas produit à l'intérieur même des frontières nord-coréennes, mais à l'extérieur en Malaisie, ce qui ouvre une porte et une fenêtre pour les enquêteurs. Et en même temps, on voit bien que dès qu'il s'agit de la Corée du Nord, tout vrille.
Bah d'abord, la Malaisie n'est pas n'importe quel pays, parce que c'est exactement le pays d'où partait le MH370 qui a disparu. Mm-hmm. Donc c'est pas non plus le pays de la transparence absolue, parce qu'on voit qu'ils ont été particulièrement flous sur l'enquête. Donc effectivement, le fait que ça se passe hors des frontières de la Corée du Nord est un avantage. Ça veut pas dire qu'on va avoir tous les éléments de manière absolument transparente.
Transparente. Ouais. Et ça a bien commencé, hein, dans le genre machine à fantasmes, entre le t-shirt d'une des deux femmes au passeport vietnamien sur lequel on a vu marqué LOL. Des histoires d'empoisonnement à la fléchette ou à des jets d'acide. Il y a un de vos confrères de Slate qui s'est amusé à retracer toute la circulation de l'information sur Twitter, les agences, les sites d'information et qui a vu comment à chaque fois, par quelques petits mots, des commentaires, on y ajoute du fantasme.
C'est ça. Donc, au départ, ça part de médias sud-coréens qui ont été les premiers à annoncer sa mort. Mais un média sud-coréen, Chosun TV, disait qu'il a été tué à la seringue empoisonnée. Il semble que ce ne soit pas le cas. Une possibilité, c'est qu'on lui ait soit jeté en spray le poison. Une autre, c'est qu'il y a eu un gant empoisonné en fait, qu'on lui a appliqué sur le visage. On commence à voir les images de vidéos surveillance de l'aéroport, donc ça donne des éléments, mais c'est encore pas très clair. Et aujourd'hui, on peut pas dire avec certitude ce qui a été fait.
Ce qui s'est réellement produit. Alors, évidemment, tout ça, ça convoque tout un tas de morts mystérieuses tout autour de Kim Jong-un. Donc, soit dans le noyau du pouvoir, soit dans sa propre famille, il y a l'histoire de l'oncle. Alors, racontez-nous l'histoire de l'oncle, parce que je vous avoue qu'avec l'équipe de l'Instant M, on a lu les choses les plus dingues qu'on puisse lire sur un assassinat politique.
On a tout lu, en fait. Donc, l'oncle, il s'appelle Jang Song-taek. Mm-hmm. C'était le numéro 2 du régime. En fait, quand Kim Jong-il, donc le père du dictateur actuel, a eu un AVC en 2008 et il était un peu sur le carreau jusqu'à son décès en 2011. Et donc, Jang Song-taek, l'oncle, a effectué une sorte de régence. C'est lui qui a tenu le pouvoir jusqu'au décès de Kim Jong-il. Et quand Kim Jong-un s'est installé au pouvoir, il a commencé à l'écarter. Visiblement, il a voulu supprimer cette faction entière à laquelle pouvait également être lié Kim Jong-nam, qui a été tué il y a une semaine. Et donc, effectivement, les rumeurs les plus folles ont circulé sur notamment le mode opératoire pour,
de cet assassinat.
Pour l'assassinat. On a dit qu'il avait été dévoré par les chiens.
Alors, là, parce que j'ai tout lu sur cette affaire. Donc, lui et quelques autres auraient été déshabillés et jetés vivants dans une cage qui contenait 120 chiens qui n'auraient pas
été nourris
depuis
3 semaines,
jours des semaines. Voilà. Et dévorés devant 300 dignitaires du régime, s'il vous plaît.
D'abord, pour compléter le tableau. De ce qu'on sait, c'est pas une pratique commune du régime. C'est comme on a l'impression que c'est un pays particulièrement dur en termes de droits de l'homme, etc. Mais ils n'ont pas l'habitude de jeter les prisonniers politiques toxique aux chiens. Et donc, cette rumeur a circulé, visiblement elle est fausse. Ensuite, on a dit qu'il avait été tué au canon anti-aérien, oui. Donc pas la simple Kalachnikov, donc avec des détails assez gore.
On a même produit des photos aériennes montrant un camp militaire avec l'installation, etc. Tout ça a été repris par de grands médias, hein, il faut le dire.
C'est ça, et donc ça s'est produit en décembre 2013, et là nous sommes en février 2017, je peux toujours pas dire avec certitude comment il a été tué. En fait, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il a été tué parce que Kim Jong-un voulait le mettre aux côtés du pouvoir à cette époque. Et donc en 3 ans, on n'a toujours pas pu établir quels sont les véritables faits.
Voilà, alors je vous re-raconte l'histoire de l'ex-petit ami, hein, la musique qu'on vous a diffusée tout à l'heure, c'est celle de la fameuse sextape. Alors la sextape a fini par circuler, c'est simplement une chorégraphie sur scène devant un public, on voit des danseuses avec une jupe légèrement fendue, une épaule dénudée. Alors personne n'a rien compris à cette histoire, on a dit aussi que ça aurait pu être un caprice de l'actuelle épouse du dictateur, on a dit aussi que l'ancienne petite amie aurait eu une liaison récente avec Kim Jong-un. L'agence officielle a démenti en disant que c'était l'œuvre de psychopathe de faire circuler de telles rumeurs. Et puis là aussi, soi-disant, cette jeune femme est réapparue à la télévision nord-coréenne et se serait exprimée le 16 mai à l'occasion du meeting des travailleurs du Monde. Moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter un autre grand basketteur américain. Décidément, la NBA est partout dans cette émission ce matin. Il s'appelle Dennis Rodman.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marshall. Happy birthday to you.
Il est l'ami pour la vie hein, du dictateur nord-coréen. Ça fait 4 fois qu'il y va. La dernière fois qu'il y a été, il prétend qu'il a vu bien vivante la petite amie et l'oncle.
Oui, donc c'est... Sur la petite amie, on ne sait pas grand-chose. Mm-hmm. Sur Dennis Rodman, on sait qu'avant d'aller en Corée du Nord, il avait pas mal bu.
Ouais. Qu'il est régulièrement au cœur de désintoxication.
C'est ça. Il s'est exprimé sur un sujet qu'il ne connaissait pas du tout, parce qu'il y a des gens qui l'ont accompagné dans ce voyage, qui vous racontent qu'en fait, dans l'avion ou dans les jours avant d'y aller, il n'avait pas la moindre idée de la situation géopolitique du pays. Donc, je ne vous parle pas d'un niveau de connaissance géopolitique très approfondi, mais juste de savoir que la péninsule, par exemple, est divisée en deux, que le sud est pro-américain, le nord se dit communiste.
Tout ça, c'était jamais
tout ça,
arrivé à son cerveau.
Il l'ignorait totalement. Donc, en fait, il est allé se jeter dans un sujet qu'il ne connaissait pas. Et notamment, on lui avait demandé d'intervenir auprès de Kim Jong-un. Donc, Kim Jong-un l'a invité parce qu'il est fan de basketball. Mm-hmm. Les Américains lui avaient demandé, si possible, la famille d'un missionnaire américain qui était détenu en Corée du Nord lui avait demandé d'intervenir pour sa libération. Et finalement, il est passé sur CNN depuis Pyongyang et il a dit qu'il fallait arrêter de taper sur la Corée du Nord parce que si ce missionnaire américain était détenu, c'est peut-être qu'il l'avait cherché. Donc, évidemment, ça a particulièrement choqué et ému la famille. Il a dû s'excuser.
Voilà, mais c'est quand même un exemple de... tout est étrange, tout est bizarre, tout est distordu. On n'a pas le temps de vous le faire écouter, mais sur LCI, on peut entendre que la dernière rumeur, c'est que le dictateur impose sa coupe de cheveux à tous les habitants de la Corée, que lui-même a subi 7 opérations de chirurgie esthétique pour ressembler à son grand-père. Est-ce que les journalistes ne sont pas capables d'une certaine fascination pour en faire une sorte de dictature d'opérette, de ce jeu sur ces insolites et sur ces rumeurs, Harold Thibault ?
Comme c'est un pays où il est particulièrement difficile de vérifier les faits, c'est un pays de fantasmes. On peut imaginer qu'il s'y passe des choses. Et donc, les règles de journalisme assez basiques, parfois certains journalistes les mettent de côté pour aller affirmer une chose alors qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas la vérifier. Donc, c'est un pays à prendre particulièrement avec des pincettes. Il y a un vrai problème de vérification de l'information. Et donc, finalement, ça nous renvoie aux questions de base du journalisme. C'est-à-dire, c'est pas vraiment des questions de qualité d'écriture, c'est plus des questions de comment je sais une chose, par quelle source, est-ce que je peux moi-même l'affirmer ?
Alors, ça pose aussi la question des agences de presse occidentales, AFP et AP, qui ont été ouvrir des bureaux sur place. Comment ça se passe pour eux ?
Donc, AP, donc Associated Press, l'agence américaine, a été la première à ouvrir un bureau à Pyongyang. il faut voir qu'il y a une forte demande d'informations sur la Corée du Nord, que c'est des agences qui ont des fils anglophones, et donc sur l'Asie, on demande pas mal d'informations sur la Corée du Nord, c'est important d'avoir des photos à pouvoir vendre sur ce pays. Donc ils voyaient un intérêt à s'installer en Corée du Nord pour raconter le pays, mais les conditions de travail là-bas sont particulièrement sont très particulières, c'est-à-dire que vous avez des guides, en fait, des journalistes de l'agence de propagande nord-coréenne qui est CNA, qui travaillent avec vous en permanence, vous pouvez pas vous balader librement dans le pays. Vous ne pouvez pas procéder à des interviews de base avec le citoyen ordinaire dans la rue. Et donc, ils se sont retrouvés dans une polémique parce que pas mal de gens ont dit finalement ça ne répond pas aux questions éthiques, aux règles éthiques de base du fonctionnement d'AFP. Voilà. Toutes les agences ont une charte. Et ensuite, AFP a fait la même chose il y a un an. Ils ont ouvert un bureau à Pyongyang. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas le faire, parce que c'est très important d'accéder à l'information sur
Alors,
ce pays, de dire
même,
des choses.
Vous-même, vous vous êtes rendu, vous avez accepté de vous rendre en Corée du Nord, vous avez accepté de couvrir un marathon, ce qui est quand même un sujet très mineur, hein, vu ce qui se passe là-bas.
C'est un sujet tout à fait basique. Oui. Le journaliste qui se rend en Corée du Nord doit accepter qu'il y va justement pour faire un journalisme plus d'observation, qu'on ne va pas sortir un scoop sur les droits de l'homme, sur le fonctionnement du régime. Il faut mettre de côté toutes ses ambitions et se dire qu'on va juste regarder le pays, regarder peut-être l'évolution de la capitale, Pyongyang par exemple. Donc là, on voit qu'il y a des tours qui sont en construction, on voit qu'il y a des taxis qui sont apparus.
Alors, certains de vos confrères ont montré justement sur Instagram, ont montré la Corée du Nord.
Voilà, donc c'était une utilité de la présence de l'agence AP en Corée du Nord, c'est que leur photographe qui était installé sur place, David Gutenfelder, a ouvert un compte Instagram qui montrait la vie de tous les jours en Corée du Nord. Et finalement, c'est quelque chose qu'on voit assez peu. On veut montrer que c'est une population pauvre, mais que ce sont des gens normaux, qui ne sont pas agressifs, ce n'est pas le diable, ils n'ont pas des cornes sur la tête. Les Nord-Coréens sont plutôt des gens qui souffrent. Et donc, il a voulu montrer cette vie au quotidien. Et ça, c'était une information assez nouvelle. Parce que finalement, on voit très peu les champs en Corée du Nord, on voit peu les villages. C'est quelque chose qu'on ne voit pas sur nos chaînes de télé. Il y a très peu de choses là-dessus.
Quand vous dites que ce n'est pas le diable, est-ce qu'il faut contrebalancer aussi ce qui vient de Corée du Sud ?
Il faut contrebalancer ce qui vient de Corée du Sud complètement, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent de Corée du Sud, qui viennent des services de renseignement sud-coréens. Leur objectif politique principal, c'est l'effondrement de la Corée du Nord pour qu'on puisse avoir une réunification un peu comme ce qui s'est passé en Allemagne, donc sur le modèle de l'Ouest, donc là sur le modèle du Sud. Donc ils ont tout intérêt
à diaboliser.
À enfoncer. La Corée du Nord, et donc elle est diabolisée. Donc ils vont contribuer à ces rumeurs. Par ailleurs, en Corée du Sud, vous avez beaucoup, c'est une source d'information, parce que vous avez beaucoup de réfugiés qui ont quitté la Corée du Nord en passant par la Chine et qui ensuite s'installent en Corée du Sud. Et donc eux-mêmes vont être contactés par les journalistes pour s'exprimer sur la Corée du Nord, mais parfois ils vont en rajouter parce qu'il y a une incitation finalement à raconter des trucs absolument abominables pour passer dans les médias.
On pense que c'est eux qui propagent toutes ces rumeurs les plus zinzin.
La rumeur part de plein de points différents. Ça peut être d'un journaliste qui l'écrit dans son bureau à Paris ou à New York. Ça peut partir des services sud-coréens intentionnellement. Ça peut partir de quelque chose qui s'est dit en Corée du Nord, qui a été transmis soit à un réfugié, soit au service sud-coréen. Ouais. Et ensuite, c'est le téléphone arabe. Les choses sont interprétées et l'information se perd.
Merci beaucoup, Harold Thibault. Et à très bientôt, parce que je pense que le feuilleton nord-coréen ne fait que commencer sur l'affaire de ce mystérieux assassinat. C'est la fin de l'instant M. Bonjour, Ali Rebéi.
Bonjour, Sonat Villa.
Alors, grand bien vous fasse.
Ce matin, on s'intéresse au marché du sang, au business du sang, à l'occasion d'un documentaire diffusé demain soir sur Arte. Et on va s'intéresser en particulier au plasma sanguin qui sert à fabriquer des médicaments. Plasma sanguin, parfois récupéré de façon assez trouble. Nous le verrons ce matin. Vous pouvez poser toutes vos questions au 01 45 24 7000.
Ce sera juste après les infos.